c'était une nécessité. Pour assurer la légitimité, la nouvelle autorité des pouvoirs démocratiques en place, il fallait quelque part, tout en faisant un travail de mémoire et un travail de justice, poser les jalons éthiques et politiques des nouvelles autorités en place. Il faut se rappeler que dès le changement de pouvoir, par exemple en Argentine, les chefs de la junte et les militaires principaux avaient été jugés par un tribunal argentin et condamné. Il y avait eu également des commissions d'enquête qui avaient remis un certain nombre de rapports, le rapport Rettig, par exemple, au Chili. Il y avait eu également un rapport d'une commission sur les séquelles de la période Fujimori au Pérou. Donc c'est un processus qui a commencé il y a une vingtaine d'années et qui se poursuit aujourd'hui, qui a subi des coups d'arrêt de temps en temps. On se rappelle des tentatives de coup d'État en Argentine qui avaient conduit à voter des lois d'amnistie. Puis ensuite, le pouvoir civil, le pouvoir politique et démocratique ayant pris de l'assurance, ces lois ont été annulées et le processus de vérité a pu repartir d'un nouvel élan.
La multiplication des lois d'amnistie ou l'ouverture d'archives qui ne servent qu'à des historiens ne rend-il pas le travail de mémoire plus symbolique qu'effectif ?
C'est un travail qui est toujours extrêmement compliqué. La recherche de la vérité, de la justice déstabilise les processus démocratiques en cours. Il y a donc un point d'équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver, et pas uniquement en Amérique latine. Le constat que l'on peut faire, c'est qu'en Amérique latine, les choses sont souvent allées beaucoup plus loin, même si ça peut paraître assez long, qu'en Europe. Il ne faut pas oublier que tout récemment, un ancien président du Pérou, le président Alberto Fujimori, a été condamné pour des faits concernant son exercice du pouvoir il y a une vingtaine d'années par un tribunal de son pays, un tribunal péruvien, et non pas par la Cour pénale internationale ou toute autre cour étrangère, ce qui n'est pas toujours très bien vu par les latino-américains.
En ce qui concerne la gestion du passé, peut-on parler de catharsis sud-américaine, là où l'Europe adopterait une attitude de refoulement ?
Il y a eu un travail de mémoire en Europe, mais en ce qui concerne l'Allemagne, c'est un tribunal international, donc une justice de vainqueur qui a été imposée de l'extérieur. En ce qui concerne l'Espagne, donc la transition démocratique espagnole, elle s'est faite sur une espèce d'accord entre les anciens détenteurs du pouvoir franquiste et les nouveaux détenteurs du pouvoir, donc des démocrates, sur un oubli volontaire du passé, et aucun procès n'a eu lieu pour juger des crimes ou des manquements aux droits de l'homme qui auraient été commis pendant la période de la dictature. On peut faire le même constat en ce qui concerne la France. Les crimes commis pendant la guerre d'Algérie sont couverts par des lois d'amnistie. Donc c'est un paradoxe d'ailleurs que montrent souvent du doigt les latino-américains en disant « bon, vous, Européens, très souvent, vous condamnez notre lenteur à mettre en cause tous ceux qui ont violé les droits de l'homme, mais enfin, regardez un petit peu chez vous comment vous avez géré ce genre de questions et de problèmes. »
Dans une Amérique latine et une Amérique du Sud généralement aux mains de l'extrême gauche, est-ce qu'on n'assiste pas à une instrumentalisation de ce passé pour asseoir les différents régimes ?
Effectivement, en Argentine, lorsque le nouveau gouvernement péroniste a pris le pouvoir, la question des droits de l'homme est revenue au premier plan. C'est devenu un des éléments mis en avant par les nouvelles autorités leur permettant d'asseoir leur légitimité sur la population. Donc il y a un effet de politique politicienne qui accompagne la recherche de la vérité, la recherche de la justice. Cela dit, tous ceux qui bénéficient de cette instrumentalisation politique ne vont pas se plaindre d'avoir été instrumentalisés de cette façon-là.